Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Notre podcast donne la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. À Paris, il n'y a pas que les grandes places ou le réseau des pistes cyclables qui transforment l'espace public. Les rues du quotidien changent aussi progressivement de visage et d'usage. Quartier par quartier, les habitantes et les habitants sont consultés pour proposer des transformations de leur espace public. Rue aux écoles, développement de pistes cyclables secondaires, plantation d'arbres, mise en valeur du patrimoine. Les propositions sont triées et mises en cohérence dans un programme de micro-transformation des espaces publics du quotidien. Pour mieux comprendre cette démarche, on échange aujourd'hui avec Florent Giry, qui est adjoint au maire de Paris Centre, en charge de la voirie, des mobilités et de la gestion des chantiers. N'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre sur Dixit.net pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et bonne écoute.
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Florent Giry, bonjour.
Bonjour.
Florent, vous êtes adjoint au maire de Paris Centre en charge de la voirie, des mobilités et de la gestion des chantiers. Autant dire qu'une partie significative de votre vie est malheureusement consacrée à répondre à des messages assez douteux sur Twitter. Mais pas seulement. Depuis quelques mois, vous postez aussi des tweets qui commencent tous comme ça. Dans la série des avant-après, il n'y a pas que les grands aménagements qui méritent l'attention. Très localement, nos petits projets viennent recoudre l'espace public quotidien pour le rendre plus accueillant et confortable. Fermez les guillemets. Et puis après, on a des photos qui montrent la transformation réalisée dans des petites rues secondaires ou des petites places parisiennes. Alors, ça n'a rien d'anecdotique, parce que la métamorphose de nos villes, elle passe aussi, et peut-être même d'abord, par ces espaces publics du quotidien. On va parler pacification, renaturation, végétalisation, etc., etc., etc. aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous raconter si, au-delà des tweets, la transformation de ces espaces du quotidien font l'objet d'une stratégie spécifique à Paris?
Tout à fait, effectivement. En fait, cette différence entre grands projets et projets du quotidien, elle trouve même une réponse institutionnelle à Paris, puisque à l'échelle de Paris et des arrondissements, il y a une distinction assez nette entre les projets qui sont massifs en plusieurs millions d'euros, plusieurs années d'études, etc., qui sont réalisés par la ville de Paris entière, en consultant certes les arrondissements, mais c'est elle qui est maître d'ouvrage. Et puis les projets, j'allais dire du quotidien, qui coûtent quelques centaines de milliers d'euros dans des rues, des coins de rue, qui sont toujours réalisés par les services de la ville, parce que c'est comme ça, mais qui sont, pour le coup, ce pilotage direct des mairies d'arrondissement. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'élu d'arrondissement, notre espace de liberté, il est là. Et c'est donc pour ça qu'on s'oriente beaucoup vers ces petits projets qui vraiment viennent faire la vie quotidienne des gens, qui n'ont pas un effet waouh, qui ne sont pas dans la presse, mais qui correspondent vraiment à la vie quotidienne et la déambulation quotidienne. Alors, il y a pour nous, au niveau de Paris, cette démarche, elle est assumée, puisque justement, adossée aux très grands projets de pistes cyclables, de rénovation de places, etc., vous avez une démarche qui s'appelle « Embellir votre quartier », qui est dotée de 5,5 millions d'euros par quartier. Alors, un quartier, c'est environ un tiers, un quart d'un arrondissement. Et justement, cette enveloppe, elle est mise à disposition des mairies d'arrondissement pour organiser une consultation avec les habitants, les usagers, choisir une grappe d'une dizaine de projets de petite ampleur et les réaliser dans une démarche de coordination des travaux ensuite. Donc c'est vrai que c'est à ma connaissance, là, il n'y avait pas ça dans la mandature précédente. Moi, je suis un jeune élu, mais je n'ai pas souvenir de cela. Et c'est vraiment partie du constat qu'il fallait redonner des projets très locaux, mineurs, mais ce n'est pas un gros mot d'avoir des projets mineurs.
Et en partant donc, d'un dialogue hyper localisé, hein, à l'échelle de ce quartier-là. C'est intéressant.
Exactement.
Comment s'est mené ce dialogue finalement? Il y a la hiérarchisation de ces projets.
Alors, il y a en pratique pour la consultation, il y a une plateforme en ligne, voilà, qui est mise en place là pendant 2 mois. Par exemple, nous en ce moment, on a la consultation en cours pour le quartier qui s'appelle Grand Boulevard Opéra, qui est pas seulement limité à ces deux rues-là, mais ces deux avenues-là, mais voilà, une zone de 30 000 habitants environ, dont l'armature, c'est les grands boulevards et l'avenue de l'Opéra. Et donc concrètement, il y a une plateforme en ligne, il y a déjà une 50aine de projets qui ont été déposés depuis un mois, il y a encore un mois là de consultation. Le but, c'est que nous, on oriente tous les collectifs d'habitants, les conseils de quartier, les associations de commerçants, les associations de cyclistes, de piétons, et puis tous les gens qui nous interrogent sur, depuis des fois 2-3 ans qu'on est élus sur « c'est quand qu'on va faire un projet dans ma rue ?» Voilà, on leur dit « c'est maintenant ». Vous déposez vos demandes argumentées dans la plateforme jusqu'au 21 mai, par exemple. Ensuite, nos services nous font un premier filtre pour éliminer ce qui est infaisable. Typiquement, on a beaucoup de demandes de végétalisation, mais on sait bien que les contraintes de réseau sont telles qu'il y a beaucoup de rues où on ne peut pas. Donc voilà, il y a une vérification. Et le but, c'est qu'ensuite, en septembre, par exemple, là, pour notre cas, la mairie dise, ben voilà, on retienne tel projet. On les a budgétés, chacun coûte environ tant. L'enveloppe totale est respectée. Et vraiment, ces projets viennent de demandes du territoire. C'est vraiment ça l'idée.
D'accord. Donc, ça émerge du territoire. Et pour autant, on est sur des questions aussi techniques. Vous venez d'en parler là sur les contraintes techniques de réseaux dans les tréfonds, hein, qui passent sous les trottoirs, sous les voiries et qui peuvent limiter la capacité de planter, par exemple. D'autres contraintes aussi, enfin, on est sur des sujets qui relèvent du complexe. Alors, comment est-ce que s'approprient finalement ces sujets-là, ces compétences-là, les citoyens ou les commerçants ou autres, en tout cas les praticiens des lieux? Comment est-ce qu'ils font pour développer des projets qui soient quelque part audibles? Je ne doute pas que derrière, une fois les projets sélectionnés, il y a un travail d'ingénierie au travers des services de la municipalité, mais même en amont, pour être audible, il faut aussi aller assez loin.
En fait, je différencierais 2 catégories d'usagers. Il y a les usagers lambda qui voient dans la presse cette consultation qui est ouverte, qui vont sur la plateforme et qui vont proposer un peu leur liste à la Prévert d'idées, un peu naïve, mais pas au sens péjoratif du terme, voilà, en disant « moi, idéalement, ma rue, j'aimerais qu'elle soit comme ça ». Et là, effectivement, il n'y a pas de pré-filtre de faisabilité. Et on voit des projets qui paraissent très simples sur le papier, de créer une forêt urbaine à un endroit ou de piétoniser telle autre rue. Et évidemment, on voit bien que les gens n'ont pas du tout anticipé les contraintes. Mais c'est normal. Je pense qu'il ne faut pas non plus censurer ce type de proposition, quitte à après, nous, dans notre analyse, retransformer le projet dans quelque chose qui soit faisable. On passe d'une piétonisation totale à, par exemple, créer un plateau piétonnier ouvert aux riverains. Voilà. C'est ce genre de choses, c'est à nous aussi de faire ce travail-là. Et il y a une autre catégorie d'usagers, qui est plutôt les usagers que j'allais dire experts des concertations. On retrouve notamment les assos de vélo, on retrouve les conseillers de quartier, qu'on voit très souvent. Eux, on a une relation différente, puisqu'effectivement, ce n'est pas un one-shot. On les invite à déposer leurs projets dans la plateforme, mais on peut très bien aussi les rencontrer de façon formelle ou pas, échanger avec eux pour essayer de co-construire des projets et s'assurer que ce qu'ils déposent, effectivement, n'est pas totalement hors sujet. Maintenant, même moi, en tant qu'élu, qui commence un peu à connaître un peu les sujets de voirie, et en plus, je suis formation d'ingénieur, donc ça aide aussi, j'ai pas non plus, moi, la carte de tous les réseaux souterrains dans la poche. Donc, on essaye de circonscrire, d'aiguiller sur les possibles, notamment en termes de budget, c'est-à-dire que si un projet, c'est rénover tout un quartier entier qui fait 2 hectares, évidemment que là, on dit, bah là, vous dépassez déjà les 5 millions d'euros, donc c'est pas l'objet. Mais après, on laisse aussi une marge de liberté. Et nous, moi, ce que je considère très important, c'est la transparence dans la réponse ensuite. Il y a des projets qui ne seront pas faisables, et on expliquera pourquoi. Il y a des projets que nous, on va estimer en responsabilité contraire à notre politique. Par exemple, s'il y a des projets qui nous demandent de réouvrir les voies sur berge qui ont été fermées récemment, bah évidemment qu'on répondra en responsabilité, bah non, là c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. C'est une boîte à idées, mais ce n'est pas non plus une boîte de Pandore, cette démarche. Et puis en troisième volet, il y aura des projets qu'on estimera faisables, opportuns, parce que cochant la végétalisation, l'espace pour les piétons, pour les vélos, etc. Et on pourra les retravailler, avec d'ailleurs les porteurs de projets s'ils le souhaitent, pour vraiment arriver à un projet sur mesure. C'est vraiment ça l'idée.
Alors justement, quand on rentre un peu dans le sujet du contenu de ces projets-là, qu'est-ce qui remonte finalement du terrain ? Végétalisation, on en a parlé, sur les questions de mobilité, les questions de stationnement, d'embellissement, etc. Quelle est quelque part la demande sociale, on voit bien exprimée par des groupes qui peuvent être de nature différente ?
Alors, c'est une demande sociale parce qu'il y a forcément un échantillon pas forcément représentatif des gens qui sont au courant de la démarche, qui participent, etc. Donc, je sais, voilà. Mais en tout cas, la demande qui nous est faite, la végétalisation, c'est vraiment quelque chose qui apparaît de façon très, très importante. Alors, il faut dire aussi que le quartier là, qui est concerné par notre démarche en ce moment, des Grands Boulevards, c'est le quartier des plus carencés de Paris en végétalisation, le deuxième arrondissement. Donc, c'est pas surprenant. Mais même dans d'autres arrondissements, quand on regarde ce qui se passe dans les autres quartiers, la demande de végétalisation en ville et notamment d'arbres de pleine terre, elle est vraiment massive. Et ça va nous orienter. Hein. Je sens, voilà, on va voir, on n'est pas encore fini la concertation, mais je pense qu'on va retenir effectivement le plus possible de ces projets-là parce qu'il y a une vraie demande et puis que c'est aussi un vrai besoin hein, vu les changements climatiques et l'adaptation nécessaire. Et après, il y a tout ce qui tourne autour de l'espace public, de la réattribution de l'espace. Voilà, de agrandir les trottoirs, créer des aménagements cyclables sécurisés. Aussi, des questions qui sont, alors je pense, très fortes dans notre quartier, pas forcément ailleurs, les questions de mise en valeur patrimoniale. On a des projets de demande de restaurer des fontaines, de remettre en eau des fontaines patrimoniales qui sont en effet un peu parfois éteintes depuis plusieurs années. On a des projets de questions de mise en valeur de bâtiments historiques, qui sont des projets tout à fait éligibles à cette démarche. Et il nous faudra, nous, après, faire la part des choses et quel budget on veut attribuer aux questions patrimoniales et aux questions plutôt d'usage. Mais les deux sont vraiment légitimes.
Alors, des projets, hein, c'est une forme de semis de projet. Alors, dans un quartier relativement limité, on le redit, mais on est en dessous de l'échelle de l'arrondissement. Donc, on est sur des petits projets dans des petites échelles de quartier. Pour autant, il y a une question de mise en cohérence aussi. Il y a une question de mise en cohérence avec les politiques publiques d'échelle plus large. Je pense évidemment au réseau de mobilité douce, aux politiques publiques sur le stationnement, etc. etc. Comment est-ce que, justement, en partant d'une boîte à idées où chacun regarde son bout de trottoir, on arrive pour autant à avoir des actions qui, in fine, dessinent, une ville cohérente.
Alors, d'une part, parce que justement, cette sectorisation par quartier, donc nous, on en a trois pour Paris-Centre, 3 × 30 000 habitants à peu près, vise justement à géographiquement rassembler les idées dans le temps et dans l'espace pour pouvoir coordonner et les travaux, de façon très pragmatique, mais et aussi justement les intentions. Donc typiquement, là, les travaux en ce moment sont en cours dans le Marais, qui était notre premier quartier qu'on a concerté en 2021. Et on a pu réaliser, par exemple, et une piste cyclable inscrite au plan vélo parisien sur la rue Beaubourg-Renard, peu importe, mais peut-être que les gens connaissent parce que c'est là où il y a le centre Pompidou. Donc c'est une rue assez emblématique de Paris. Donc payée par la ville, presque 2 millions d'euros, voilà. Et en même temps, par exemple, un projet de plateau piétonnier dans une rue adjacente à cette rue-là qui débouche sur un trottoir traversant. Sur la rue Beaubourg, justement. Donc là, voilà, par cette coïncidence temporelle de réflexion, on a pu fusionner, et en termes de conception, et en termes opérationnels, les travaux pour un grand projet et un petit projet. Et donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est aussi en étant très clair entre ce qu'on est prêt à accepter, nous, politiquement ou pas. Et là, c'est un peu la limite, enfin la ligne rouge entre qu'est-ce qui est de la concertation et qu'est-ce qui est de la représentation. Et nous, c'est très, très clair. On estime que les boîtes à idées, les concertations publiques n'ont pas vocation à remettre en cause le cap. Voilà. Nous, on a un cap qui est celui de la baisse de la place de la voiture, qui est celui de la végétalisation. Et si demain, un projet nous propose de couper une rangée d'arbres pour mettre du stationnement, en fait, on n'ira même pas l'instruire. Voilà. On assume aussi en responsabilité de dire que ce projet n'est pas conforme au projet territorial qu'on porte. Voilà. Et c'est deux choses. Une partie très pragmatique et très qui s'organise de méthodes de travail et opérationnelles. Une partie où on assume politiquement ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Et les deux ensemble font qu'on arrive à tenir les deux bouts entre les grands projets et les petits projets.
Oui, finalement, peut-être que pour une fois, la vision politique, parce qu'on parle vraiment de concret, peut permettre d'assumer une forme de cohérence sur le terrain.
Je ne sais pas si c'est pour une fois, mais oui.
mais là, on rentre dans le cœur des sujets. Vu de loin, on pourra avoir l'impression qu'on a une forme de facilité à Paris. Parce que qui dit transformation de l'espace public du quotidien dit place, hein, ce qui caractérise ce qui caractérise l'espace public, c'est aussi son caractère fini. Il y a bien deux façades qui encadrent la rue et on n'aura pas plus de place, surtout dans une ville comme Paris. Et donc, il faut en trouver. Si on veut ajouter des usages, évidemment, il faut en prendre à certains autres. Et la voiture, et singulièrement son stationnement, hein, c'est la première des cibles. Et dans une ville où le taux d'équipement des ménages a quand même bien baissé ces dernières années, hein, de façon assez récente d'ailleurs, je pense qu'on a du mal à réaliser à la fois l'amplitude du changement et son caractère très, très récent. Bah, tout ça paraît facile finalement, si les Parisiens n'ont plus de voitures à garer, on a de la place pour végétaliser. Alors je ne doute pas que ce ne soit pas tout à fait aussi simple. On en est où sur cette question-là ?
Non, alors, c'est jamais facile. C'est jamais facile, mais c'est vrai que dans une ville, moi, dans mon quartier, dans Paris-Centre, il y a entre un tiers et un quart des ménages seulement qui ont un véhicule, d'après les données INSEE. Et effectivement, ça baisse beaucoup. C'est forcément plus facile que quand il y a 80%. Ça, c'est une évidence. Mais ce 25 ou ces 30% de personnes qui ont ménages qui ont des voitures, il vient pas de nulle part. Alors, il vient d'une part de la configuration spatiale de nos quartiers dans le Marais, dans le Sentier. Pour ceux qui connaissent, et sinon Google Maps peut permettre d'avoir une vision de ces rues. Ce sont des rues qui sont quasiment des canyons à certains endroits, où en fait, il n'y a jamais eu de stationnement. Ou alors, ça fait déjà des dizaines d'années où le stationnement a disparu dans beaucoup de ces rues-là. Donc, les gens qui emménagent ont déjà pris en compte ce critère depuis très longtemps. Mais malgré tout, le deuxième aspect, c'est aussi qu'on a une politique, et je reviens sur le sujet politique du coup, assumée de réduction de la place de la voiture. Dans nos engagements électoraux en 2020, on avait un objectif chiffré de réduction de 50% des places de stationnement. Je suis pas sûr qu'on arrive à atteindre ce chiffre-là précisément, parce qu'en réalité, supprimer une place de stationnement, c'est pas pour le plaisir, c'est pour faire autre chose. Et donc, des fois, dans les dynamiques de projet, que ce soit par des limites budgétaires ou des limites opérationnelles, on n'est pas non plus à une place près, on cherche pas à atteindre un quota. Mais cet engagement, il était très important et très structurant, parce qu'il nous donne la liberté et la légitimité, j'allais dire, de pouvoir supprimer du stationnement de façon très massive en ayant l'aval de la majorité de la population et donc en étant certain de la légitimité de notre projet et de notre démarche. Une fois qu'on a dit ça, ça facilite beaucoup l'acceptation politique des projets et puis la sérénité de travail, mais évidemment qu'on n'a pas été élu à l'unanimité et qu'il y a bien sûr des personnes qui ont encore une voiture, qui ont le droit d'ailleurs, et qui peuvent s'estimer, à tort ou à raison, lésées par un projet où on viendrait supprimer du stationnement dans leur rue. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de compromis à avoir, à mon sens, c'est-à-dire que le projet se fait ou se fait pas. S'il se fait, vu la configuration, il faut supprimer le stationnement. À un moment, il faut choisir. On met un arbre à la place d'une voiture, ou alors on garde la voiture. Il n'y a pas les deux choix possibles. Et dans ce cas-là, c'est notre boulot, me semble-t-il. C'est ma vision, en tout cas, moi, de l'engagement que j'ai, qui est un peu particulier, parce qu'en plus, je ne suis pas dans les partis politiques, donc c'est vraiment un engagement qui vient de mon expérience associative et citoyenne, de se dire, on a un programme écrit, c'est ça qui fait foi, et du coup, on explique aux gens, on essaie de faire de la pédagogie, de leur trouver des solutions, mais à la fin de la fin, on fait. On fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Voilà. Même si ça fait des mécontents, ça en fait toujours, c'est normal, c'est légitime. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est plus facile parce qu'on est à Paris et qu'il y a une tendance longue sur le sujet et parce qu'on a assumé, il y a 3 ans lors des élections municipales, le cap et que ce cap, il était écrit noir sur blanc et que ça nous permet quand même d'avancer de façon assez sereine.
Avec sans doute une forme de continuité, hein, enfin de réaffirmation là-dessus, mais ce n'est pas non plus un message qui est apparu il y a 3 ans.
Effectivement.
Et donc, quelque part, c'est d'ores et déjà dans les esprits. On reviendra là-dessus, hein, parce que c'est important de voir, évidemment, Paris n'est pas la France, Paris n'est pas la ville française, mais qu'est-ce qu'on apprend, quelque part, collectivement, qu'est-ce qu'on apprend pour ailleurs de ces démarches-là. Mais peut-être restons encore quand même sur... sur Paris, pour poser la question aussi de d'où on en est. Hein, parce qu'à force de faire des semis de points, est-ce que pour autant ça fait système? Est-ce que, à la fois quantitativement, dans les années qui viennent, mettons sur un cap 2030, ces séries de micro-projets, est-ce que ça va amener une masse critique de transformation de l'espace public? Et puis, est-ce que dans la méthode, est-ce que dans les façons de faire, est-ce qu'on commence à retrouver des formes de passage à l'échelle, des solutions répétitives, des apprentissages? On peut rentrer hein, sur des questions, techniques. Ma question à la fin, c'est est-ce qu'on est en train de faire des exemples, alors qui sont peut-être pas massifs, mais des séries de prototypes, ou est-ce qu'enfin, on commence vraiment à transformer la ville?
Alors, on transforme la vie, mais comme vous l'avez dit, c'est pas non plus nouveau de cette mandature. Il y a une accélération, me semble-t-il, justement parce que cette méthode et ce cap est plus clair que jamais. Et donc, on avance vraiment de façon rapide et efficace sur ces projets. Si on se dit les choses, en 6 ans que représente un mandat, il y aura une minorité des rues de Paris qui va faire l'objet d'un traitement tel que je l'évoque. Voilà, on a des dizaines de milliers de rues, je pense, à Paris, ou des milliers de rues. On va avoir quelques centaines qui vont faire l'objet d'une rue aux écoles, hein, donc ces projets où on piétonise les abords des écoles, soit d'une plantation d'arbres à la place de places de stationnement, soit d'une piétonisation avec des jardinières en pleine terre et des arbustes, soit des pistes cyclables. Tout ça est au cas par cas. Et donc, quand j'évoquais dans mes tweets la question de la couture urbaine, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le bon projet au bon endroit. Et donc, j'allais dire, chaque projet est presque un prototype. Il n'y a pas vocation à être répliqué à l'identique dans la rue voisine. Et je pense que ce sur-mesure, à la fois forcément, il implique un petit peu plus de temps de concertation à chaque fois, etc. Et donc, un peu de temps perdu, entre guillemets. Mais en fait, il n'est pas perdu. Parce que la clé est de l'acceptabilité, même si ce n'est pas forcément ça notre sujet numéro un, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, les gens acceptent en majorité, sinon on ne serait pas là. Et la clé aussi du bon fonctionnement, du bon usage et du bon, du coup, entretien d'espace public ensuite, parce qu'il faut anticiper l'entretien et les usages lors de la conception, passe par cette étape de sur-mesure. Donc voilà, je voudrais... On a certains projets où on arrive un peu à faire quelque chose de un peu une brique standard. Par exemple, pense aux rues aux écoles. Les rues aux écoles, il y en a qui marchent. Il y a un modèle, là, à Paris, qui marche très bien, qui est déployé presque à la chaîne, où on sait qu'on reprend le revêtement, avec un revêtement clair anti-îlot de chaleur. On met des arbres quand on peut, grâce au réseau. Quand on ne peut pas, ou en complément, on met des jardinières pleine terre. On met des barrières d'un format identique à l'entrée et à la sortie, avec les panneaux du même type. Et on déroule. Et ça, on sait que c'est standard. On sait quelles sont les contraintes techniques qu'une rue doit présenter pour dérouler un projet comme ça. On sait qu'il ne faut pas d'entrée de parking souterrain, on sait qu'il ne faut pas qu'il y ait une caserne de pompiers ou un commissariat en face, on sait qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de commerce avec des livraisons quotidiennes. Et donc, on a pu bâtir pour les rues aux écoles précisément, parce que c'est un programme dédié et ad hoc, une sorte de typologie où on peut filtrer les rues de façon très statistique et se dire, tiens, on a encore X rues où on sait qu'on va pouvoir dérouler ce programme-là. Et on est en train de faire en ce moment d'ailleurs. Là. Alors, nous, on a identifié dans notre quartier, la Grand Boulevard Opéra, on a identifié 3 rues où on pense pouvoir dérouler ce type de projet s'ils sont soutenus par les communautés scolaires locales. Mais une fois qu'on a fait ces rues aux écoles, on va arriver à un moment à l'os où toutes les rues standards auront été faites et restera encore beaucoup d'écoles qui ne représentent pas les caractéristiques cumulatives que j'ai évoquées tout à l'heure, et je n'ai pas tout évoqué, hein, mais voilà. Et là, il faudra forcément faire des projets sur mesure. Parfois, ce sera des rues qui seront fermées qu'à l'heure d'entrée des classes. Parfois, ce sera des rues où il n'y aura pas de végétalisation, mais quand même une piétonisation, parce que c'est ce qu'on peut faire. Parfois, il y aura des rues à l'inverse qui seront végétalisées et pas piétonisées. Et du coup, c'est à chaque fois et des concertations et des études et des travaux sur mesure. Et moi, j'avoue que je rejette un petit peu le côté à la chaîne. Je pense que notre action publique, elle est pertinente lorsqu'elle est sur mesure. Voilà.
Non, mais j'entends. Et puis, ça fait partie du retour d'expérience. Et finalement, il y a peut-être une forme de contradiction, mais il va peut-être falloir qu'on trouve les solutions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à accélérer, passer à l'échelle, avoir une réponse globale quelque part, sans pour autant passer par la standardisation, même si elle est applicable sur certains sujets. Ouais. Voilà. Et massifier, ce n'est pas nécessairement industrialiser. Pour autant, il faut s'organiser pour monter en puissance et accélérer les processus. Évidemment, hein, y a des questions de budget d'investissement, etc. Mais quoi qu'il en soit, le taux de renouvellement d'une rue, c'est à peu près tous les 30 ans. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui en train de fabriquer la rue qu'on aura en 2050 et qu'elle doit déjà être raccord avec ces enjeux-là.
Mais tout à fait. En fait, entre un projet standard, effectivement, qui est un peu tombé du ciel et qui arrive dans une rue, qui en effet, ça, moi, n'est pas une démarche que je prône. Et par contre, en effet, avoir une doctrine technique mise en place, carrée, au sein des services qui sont en charge des projets, de tous ces projets-là, qui va, par exemple, dire quelle est la palette de matériaux qu'on peut utiliser, quelle est la palette de mobilier urbain qu'on va utiliser, quelle est la palette végétale, quelles sont les bordures des jardinières, quelles sont la taille des fosses pertinente pour les arbres. Tout ça, par contre, c'est standardisable et c'est standardisé à Paris maintenant. Et effectivement, les projets qui correspondent à des projets qu'on fait à de nombreux endroits, plantations d'arbres, pistes cyclables, trottoirs traversants, plateaux piétonniers, les expériences ont permis de créer un peu des standards. Parfois, il n'y en a pas qu'un, parfois il y en a 2 ou 3 et on peut choisir, on peut piocher selon les contraintes. Mais Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, même si on a des normes qui sont nécessaires, le projet final doit forcément composer autour. Et on ne peut pas simplement être dans l'application bête et méchante de la doctrine papier.
Mais ça, ce qui recoupe hein, notamment les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur Montréal, hein, sur lequel il y a cette idée hein, de faire des formes de standards sur mesure, c'est-à-dire d'avoir appris des choses et ensuite de les déployer de façon hyper contextualisée en fonction du magasin qui est en face de l'avancée de trottoir, de la pente, etc. etc. comme une nécessité quelque part et la fin de cette hypothèse hein, d'une application aveugle quelque part, de solutions toutes faites à des problèmes qui sont toujours différents. Et tant mieux. Alors ça pose quand même la question derrière, non pas de la standardisation des solutions, mais finalement de l'organisation des méthodes, du qui fait quoi, de l'organisation des projets, etc. Dans une ville comme Paris, mais justement quand on travaille sur ces petits projets, on est organisé comment ? Qui pense, qui fait, qui réalise, etc.
Alors, Paris a cela de complexe que c'est une ville, un département, qu'elle a des arrondissements et que les compétences des différents niveaux administratifs sont à la fois claires dans le droit et dans la règle écrite, mais fluctuantes dans la pratique. Donc, à Paris, typiquement, le service en charge de la voirie ou le service en charge des espaces verts, il dépend de la ville entière. C'est clair et net, les arrondissements n'ont pas de service propre pour ces sujets. En revanche, ces services centraux ont aussi des antennes dans les arrondissements. Et donc, c'est là où il y a toute une gymnastique qui est à la fois des doctrines et de l'organisation du travail, et à la fois aussi de l'usage quotidien, qui est la répartition fine des tâches, notamment pour les projets d'aménagement. En pratique, ce qui se passe, c'est que cette répartition entre grands projets et petits projets, on la retrouve dans l'organisation du travail. Vous avez les services centralisés, qui sont vraiment là, qui ont des équipes importantes d'ingénieurs, d'études, etc., qui eux vont s'occuper des très grands projets. Typiquement, en ce moment, en termes de grands projets, on a les abords de la cathédrale Notre-Dame. On a 50 millions d'euros pour refaire les abords. Donc là, on est sur un bon projet déjà. Hein. Voilà, là, typiquement, c'est le service qui s'appelle le service des grands projets, aménagement et grands projets, au niveau de la ville entière. Et au niveau local, on a donc des sections territoriales de voirie sur lesquelles moi, en tant qu'élu en charge de la voirie d'un arrondissement, et puis c'est pareil pour le maire d'arrondissement, on a une sorte de hiérarchie fonctionnelle, mais pas de hiérarchie directe. Voilà. Donc concrètement, ce sont nos interlocuteurs quotidiens. On discute avec eux. Là, dans le cadre de ma démarche « Embellir votre quartier », c'est eux qui vont analyser les projets soumis par les participants, par les habitants. C'est nous, mairie d'arrondissement, qui allons présélectionner les projets qu'on souhaite retenir parmi ceux-là. Il y aura une phase de validation par nos collègues à l'échelle de la ville entière, donc par l'adjoint à la maire de Paris en charge de la voirie, en charge des chantiers, ils vont avoir un regard. Mais ce qui se passe, c'est mon expérience au bout de 3 ans de mandat, c'est que dans 99% des cas, leur regard est un acceptation parce qu'ils reconnaissent que c'est nous localement qui avons la connaissance. Alors il faut dire aussi qu'en tant qu'élu de la même majorité, c'est sans doute plus facile. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les arrondissements qui sont de droite. Qui doivent gérer du coup parfois des projets peut-être pas forcément consensuels avec la ligne de la majorité municipale entière. Mais quand on regarde des projets qui sortent sur le terrain, et donc qui par définition ont fait l'objet d'un consensus, finalement on retrouve des projets assez similaires dans tous les arrondissements. Les rues aux écoles, la plantation d'arbres, les aménagements cyclables secondaires, si on parle des aménagements de petite taille. Et ça, vous pouvez en trouver et dans le 15e arrondissement, et dans Paris-Centre, et dans le 19e. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de ligne de crête qu'on arrive à maintenir et une sorte d'intérêt général un peu unanime. Et après, les mairies d'arrondissement, par contre, elles sont prescriptrices sur la hiérarchie des projets et sur leur localisation. Voilà, savoir si c'est telle ou telle école qui est la plus pertinente pour recueillir tel aménagement, ça, c'est bien notre boulot d'élu très local de pouvoir le savoir en dialogue avec les directeurs d'école, les parents d'élèves, etc.
Alors, au-delà de l'histoire institutionnelle assez lourde, hein, disons-le, de Paris, cette forme de décentralisation de l'ingénierie, ouais. Au-delà de cette histoire, une fois de plus, est-ce qu'elle vous semble finalement adaptée à ces typologies de projets ? Et pour reformuler, est-ce qu'on a besoin d'avoir une ingénierie collée au terrain pour faire des petits projets qui soient vraiment adaptés aux besoins du terrain ?
Non, alors effectivement, on pourrait imaginer, d'ailleurs la limite est floue, hein, parce que Quand, en général, c'est le montant du projet qui va dire si c'est le service de la ville ou les services territorialisés.
Mais c'est pas non plus Excel qui manage. Oui, oui, bien sûr.
Non, mais quand on est à un moment pile à la limite, bon, c'est aussi selon le plan de charge des uns des autres. Il y a deux choses en fait. Il y a la question de est-ce que le projet a besoin d'être territorialisé ? Ma réponse est plutôt non, parce que Paris est un territoire quand même pas très grand. L'ingénieur de voirie, qui est certes à la direction de la voirie centrale, elle est Avenue de France, par exemple, dans le 13e, je veux dire, il n'est jamais qu'à 2 km de Paris-Centre, en ce qui me concerne. Il peut très bien prendre son vélo ou prendre le métro et venir sur le terrain très, très facilement pour se faire une idée. Aussi facilement que l'agent de la section territoriale. Donc, on n'est pas dans cette question-là, à mon avis. D'ailleurs, on a parfois, voilà, au fur et à mesure des arbitrages, des plans de charge, il se peut arriver ponctuellement qu'un projet pas très grand soit porté, adossé à un autre grand projet, ça nous arrange. Et du coup, c'est le service central qui va le réaliser. Et il ne sera pas moins bien réalisé. Voilà. En revanche, l'intérêt que peut avoir la prise en charge par la section territoriale de voirie, c'est par contre le fait qu'elle va pouvoir beaucoup mieux coordonner la réalisation du projet avec d'autres travaux éventuellement à côté. C'est cette section territoriale de voirie qui est au courant des travaux à venir par les concessionnaires, pour le réseau de gaz, pour le réseau d'eau, pour le réseau d'électricité. C'est elle qui donne les autorisations pour les chantiers privés. C'est elle qui va donner les autorisations pour monopoliser l'espace pour un tournage, par exemple, où on va avoir une rue pendant 2 semaines qui va être bloquée. Et donc, c'est vrai qu'il y a un intérêt opérationnel pour les petits projets du quotidien, dans le flux des missions qu'elles ont, à pouvoir mutualiser cela. Voilà, parce qu'elles vont avoir une connaissance meilleure du contexte ultra-territorial et des contraintes ultra-territoriales. Mais à la fin, en vrai, on y arrive toujours. Voilà, ils se parlent aussi entre eux. Hein.
Heureusement. Qu'est-ce que vous entrevoyez là d'ici 2030, justement pour être au rendez-vous? Je ne vais pas vous demander le programme pour les prochaines municipales, mais en même temps, commençons à y réfléchir. On a une accélération de la transformation de l'espace public qui est nécessaire. Le rapport Paris 50 degrés là vient de sortir, enfin les propositions. On voit bien, on n'est pas sur du statu quo, et clairement on n'est pas sur des sujets d'embellissement.
Exactement.
Comment on fait là?
Alors, ce qui est intéressant avec ce rapport 50 degrés, c'est qu'en plus il a été transpartisan et je crois adopté à l'unanimité. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'en 2026, quel que soit le résultat des élections, on peut quand même imaginer avoir un cap, j'allais dire, peut-être moins ardu que celui qu'on a mis, mais en tout cas, que la continuité soit assurée à minima. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a des défis devant nous qui dépassent l'embellissement, comme vous le dites, même si les deux ne sont pas incompatibles. Et on sait bien, par exemple, que la question de la végétalisation, et notamment de la plantation de grands arbres, elle va devenir une question de vie, enfin de survie en ville. Ça ne va plus être effectivement simplement une question d'embellissement de la rue. Et ça, c'est des projets au long cours. Là, on a un projet, par exemple, qu'on va mettre sur l'île de la Cité en début 2024, pour planter une trentaine d'arbres sur un des quais de l'île de la Cité qui n'en a pas encore. C'est des projets qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, 3, 4, 5, 6 mois de travaux selon la complexité, et ils se programment, ils se budgètent, ils se programment à l'avance. Et donc, c'est vrai qu'on sent bien que, au-delà de la couture urbaine, il y a une question de la massification, comme vous disiez tout à l'heure, et s'assurer que ce cap soit maintenu. Alors effectivement, sans tomber dans le programme électoral, que je n'ai pas, on est encore très très loin, et voilà. Clairement, je pense qu'en 2030, si on se projette, typiquement, on peut se dire que tous nos grands axes à Paris sont équipés d'une piste cyclable sécurisée. Je pense que ce n'est pas un objectif qui est irréaliste. Il y a un rythme d'aménagement là qui est important. Et si la dynamique continue ou s'accélère dans le tendanciel de l'accélération qu'on a eu ces dernières années, on peut dire qu'en 2030 et 2035, tous les grands axes ont une piste cyclable. Et donc que le vélo est possible partout à Paris dans des conditions optimales de sécurité. On peut se dire aussi qu'en 2030, on aura sans doute épuisé la totalité des gisements fonciers pour la construction à Paris. Je suis moins expert des sujets d'urbanisme en termes de construction de bâti, mais c'est un chiffre que j'ai retenu des discussions avec mes collègues. C'est qu'il reste encore quelques emprises foncières, typiquement des voies ferrées désaffectées, ce genre de choses, mais on va arriver très vite quand même à la fin. Donc, il y aura aussi une question de comment on fait la ville sur la ville. On le fait déjà en réalité. Hein. Voilà, demain, il n'y aura plus un mètre carré de libre. Et de toute façon, on n'aura pas envie de dépenser les mètres carrés restants pour la construction, puisqu'on voudra plutôt dédier à la végétalisation. Et le PLU bioclimatique qui est là en cours de finalisation à Paris, c'est ça le sujet. Et il y a une question de à quel point on continue la suppression des places de stationnement. Est-ce qu'on peut arriver à l'os où on se dit qu'il n'y a plus aucune place de stationnement hors livraison sur l'espace public? Là, ça demande un peu de prospective en termes d'usage. On a une manne en parking souterrain qui est très, très importante à Paris. Nous, hein, dans nos quartiers à Paris-Centre, où on part déjà avec moins de stationnement de surface qu'ailleurs, en plus, déjà dans le statut initial, il est, enfin, je veux dire, deux tiers à trois quarts du stationnement en volume, il est déjà en souterrain, ou en ouvrage, ou en privé. Donc, en fait, quand on dit qu'on supprime tout le stationnement de surface, on touche à un quart. Donc, est-ce que ce quart, il est vraiment vital pour le fonctionnement urbain du quartier normal, pour des usages? Parce que moi, je ne suis pas à dire que demain, on pourra se passer totalement de tous les usages de la voiture. Je pense que ce n'est pas vrai, qu'il y a certains usages, notamment pour les personnes en situation de handicap, pour des déménagements, des choses comme ça, où certes, on peut parfois avoir du vélo cargo, plus, mais ça ne répond pas à tout. Et donc, on aura des véhicules demain électriques ou hydrogène, etc., mais on aura quand même des véhicules. Il faut leur faire une place. Alors, est-ce que, du coup, les places souterraines suffisent? Comment on gère l'hyper-proximité? Parce que parfois, ces places en souterrain, elles sont concentrées par des grandes poches de 200, 300, 400 places à un endroit, mais elles ne permettent pas d'assurer la finesse de la desserte de chaque adresse. Et pour une personne qui est en fauteuil roulant, certes, il a une place, mais si elle est à 800 mètres de chez lui, il faut quand même qu'il puisse rentrer chez lui. Donc ça, moi, je n'ai pas la réponse encore de jusqu'où on pourra aller. Ce que j'observe, par contre, c'est que là, nous, on doit être à Paris-Centre, à Gigi Lalouche. On doit être en 3 ans, peut-être à 15% de suppression des places de stationnement. C'est un énorme de grandeur, 15-20%, je dirais. Si j'intègre des projets qui sont déjà en cours et qui arrivent, sont imminents, là. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que clairement, à chaque fois, c'est la même chose. On a souvent des craintes que je comprends, hein, qui sont légitimes, des riverains, des commerçants sur l'accès au commerce, etc., les clients, machin. Et puis, quand le projet se réalise, eh ben, en fait, les gens, la plupart des usages trouvent leur place ailleurs, autrement. Et ça se fait de façon, j'allais dire, presque surprenante de facilité. Moi, c'est quelque chose qui me surprend encore aujourd'hui. Où des fois, on se dit, allez, quand même, là, on y va un peu fort. On a été élu pour ça, donc on y va, on est engagé, c'est nos engagements. Mais bon, quand même, c'est quelque chose, quoi. Voilà. Et puis, en fait, le projet se fait. Et puis, 3 mois plus tard, il n'y a plus aucun sujet. On a l'impression que les problèmes disparaissent. Alors, ils ne disparaissent pas. Il y a des gens qui trouvent d'autres solutions. Il y a des gens qui changent leurs habitudes. Et en fait, ce levier-là, il marche. C'est-à-dire que vraiment, quantitativement, il y a des gens qui vont abandonner leur voiture et qui vont réussir à faire leur vie sans. Et on a des témoignages des fois assez émouvants en ce qui me concerne, de gens qui nous disent, j'étais très contre et finalement je me suis mis au vélo et en fait ça m'a changé la vie. Et là, moi, ça me fait le sourire toujours aux lèvres parce qu'en fait, je pense que c'est la meilleure démonstration que ce qu'on fait peut marcher. Et puis, il y a toujours une fraction de gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas. Et celle-là, il y a deux cas. Soit elles vont trouver des solutions alternatives, elles vont se garer dans la rue d'à côté, prendre une place de stationnement souterrain qui est peut-être un peu plus chère du coup, mais voilà. Et parfois, il y a aussi des gens, et ça, c'est la vie quotidienne à Paris, hein, qui vont choisir aussi de déménager. Et ça existe. C'est pas du tout un souhait de notre part. On a aucune politique en faveur du changement de la population à Paris. Mais maintenant, chacun est libre et chacun fait ses arbitrages. Moi, je suis un grand libéral. Chacun fait ses arbitrages par rapport à son propre intérêt. Et si quelqu'un estime que le cadre de vie qui est proposé par la ville de Paris, qu'on estime, nous, d'intérêt général, mais qui permet plus de faire ses activités et d'avoir sa vie de la façon qu'il souhaite, en termes de stationnement par exemple, c'est tout à fait légitime que cette personne questionne son déménagement dans un autre quartier, à Paris, en banlieue, ailleurs. Et d'ailleurs, ce mouvement-là se fait qu'on le veuille ou non, puisque Paris est une terre d'accueil depuis très longtemps. Et en fait, beaucoup de gens sont à Paris pour un moment de leur vie, indépendamment de ce qu'on peut faire dans la voirie ou pas. Ça, c'est un sujet qui est difficile. Politiquement, de savoir à quel point on assume ou pas que les gens puissent choisir de partir suite à un aménagement qu'on a réalisé. C'est un sujet qui est difficile parce que, encore une fois, ce n'est pas un objectif de notre politique municipale, ni assumé, ni caché. Ce n'est pas un objectif, ça n'a jamais été, ça ne l'est pas. Et en même temps, c'est un peu incontournable, je pense, en pratique, qu'il y ait des gens qui vraiment sont tellement contre le mouvement dans lequel on est, qui à un moment se disent stop. J'estime que là, ça compromet ma façon de vivre. Voilà.
Beaucoup, beaucoup de ressorts hein, sur ces questions de peuplement de Paris et de dépeuplement de Paris.
Hein, ouais, bien sûr.
Aujourd'hui, alors qui sans doute relève partiellement des transformations de l'espace public,
oui.
Et sans doute très partiellement.
Il faut être modeste, je pense, sur l'impact qu'on peut avoir beaucoup, sur ces grandes masses. Ouais.
Beaucoup, beaucoup d'autres variables, plus toute une crème qu'on va retrouver sur Twitter qui viennent.
Et d'ailleurs, et dans les deux sens, hein, parce que nous, on fait aussi dans des rues aux écoles en disant, bah voilà, c'est pour conforter les familles qu'elles restent dans Paris. Je pense qu'il faudra faire l'évaluation, mais je ne suis pas certain, à titre personnel, qu'une famille décide de rester ou pas à Paris s'il y a une rue aux écoles. La rue aux écoles, elle sera très contente de l'avoir. Mais si elle ne peut pas payer son loyer,
voilà,
elle partira.
Le prix du mètre carré va quand même déterminant assez.
Faut être humble dans les leviers qu'on a à notre disposition en tant qu'élu local. Je pense que ça, c'est important aussi.
Alors, moi, je propose quand même qu'en changeant de sujet, qu'on quitte Paris. Justement, qu'on quitte Paris et tout en assumant évidemment les singularités hein, de la capitale. Justement, est-ce que vous avez réfléchi, vu de l'extérieur, sur les politiques publiques sur lesquelles aujourd'hui vous êtes impliqué dans le détail, se dire ce qui serait extrapolable ailleurs, ouais. Diffusable, transformable ailleurs. Ce que, d'ailleurs, vous ne referiez pas, si c'était à refaire. Enfin bref, qu'est-ce qu'on en garde pour les autres? Quels conseils ou suggestions, plutôt, hein, on n'est pas ici pour aller trop loin là-dessus, mais quelles pistes on pourrait relever dans ce que vous avez vécu ces dernières années, à destination d'autres territoires?
Alors peut-être en préambule, pour comprendre de quelle position je parle, je suis donc élu parisien depuis 3 ans. Je suis parisien depuis environ 10-12 ans, mais j'ai grandi La majeure partie de ma vie, je l'ai vécu en banlieue parisienne, en Grande Couronne, dans l'Essonne. Donc un territoire qui est très différent, qui est à la fois urbain, mais moins dense, pavillonnaire, entre pavillonnaire et cité HLM. Et du coup, un usage notamment des mobilités totalement différent. Moi, j'ai connu mon adolescence quand j'étais dépendant entièrement de mes parents pour m'emmener voir mes amis. Parce que c'était trop loin pour y aller à pied, que le vélo était hors de question vu les conditions, et voilà.
Une adolescence normale. Ouais.
Normale, enfin, je crois que c'est normal, mais en tout cas, une adolescence de banlieue, quoi. Classique, en effet. Alors. J'observe que la plupart des grandes villes, et d'ailleurs indépendamment de leur, presque transversalement selon leur étiquette politique, ont quand même une démarche qui va un peu, bah même beaucoup dans ce sens-là. Vous prenez la ville de Nice, dont le maire n'est pas spécialement un ayatollah de gauche, qui met en place des pistes cyclables, de la végétalisation, et des projets d'ailleurs très qualitatifs, moi je trouve, qu'on pourrait tout à fait faire à Paris. Enfin vraiment le même type d'aménagement. D'ailleurs, il se fait critiquer par certains à droite où on lui dit qu'il fait du Hidalgo. Mais en fait, il fait pas du Hidalgo. C'est-à-dire que dans les grandes villes, l'impératif et d'adaptation au changement climatique et les besoins urbains des habitants qui, dans leur majorité, n'ont pas de voiture, même dans les grandes villes de province, enfin pas la majorité, mais en tout cas de plus en plus n'ont pas de voiture dans les cœurs de ville, font que les demandes sociales sont les mêmes et donc les réponses apportées par les élus sont les mêmes. Je pense qu'il y a une convergence à la fois sociologique, à la fois urbaine, un peu d'une destinée commune, mais il y a un peu de ça, quoi, d'un sens naturel de l'histoire. Alors, à l'inverse, il y a les milieux ruraux, que je ne connais pas, j'ai jamais vécu en milieu rural, donc je ne me prononce pas en tant qu'expert. J'observe, par ce que font les collègues élus des milieux ruraux, etc., qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se passent, notamment sur les mobilités. Alors, la question de l'adaptation au changement climatique en termes de végétalisation se pose moins. Quand on habite dans la campagne avec des rangées d'arbres partout ou des forêts, c'est pas le sujet. C'est moins le sujet. Enfin, t'en es d'autres. Oui. Mais par contre, sur les mobilités, par exemple, j'ai vu des exemples de mobilités rurales très, très intelligentes, que ce soit des transports en commun à la demande ou des lignes de covoiturage organisées, ce genre de choses, et même des aménagements cyclables qui permettent de relier les centres-bourgs. Et c'est vrai que quand on voit des pays comme les Pays-Bas, alors qui sont moins rural, et même la ruralité là-bas est plus dense qu'en France, mais les centres-bourgs sont reliés par des aménagements cyclables de façon tout à fait commune. Et se dire d'aller, qu'on va au centre-bourg qui est à 5 voire 8 km plus loin pour aller voir un ami, aller au café, faire une petite course et qu'on puisse y aller en vélo ou en vélo cargo, c'est pas du tout quelque chose de saugrenu. Alors qu'en France, ça l'est aujourd'hui. Les gens qui habitent, et moi j'ai la famille, beaucoup qui habitent en milieu très rural, très très reculé, et qui effectivement, même quand ils vont à 5 ou 10 km, ils ne se posent même pas la question de choisir leur voiture ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aménagement. Et puis, c'est tellement ancré dans le quotidien que la question ne se pose de toute façon pas. Donc, il me semble qu'il y a quand même un sujet là, de progrès. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils ont de la place. Par rapport à nous, ils sont beaucoup moins contents en termes d'espace. Donc, il y a une question plus facile de ce point de vue-là. Et après, il y a l'entre-deux, la périurbanisation. Alors, moi, j'ai pas mal vécu mon adolescence, mais avec le recul, je m'étais amusé un jour à recalculer l'itinéraire, enfin à regarder à vol d'oiseau l'itinéraire que je faisais pour aller au collège. Et mon collège était à moins de 5 km de chez moi. Je mettais 45 minutes pour y aller en transport en commun parce que le ramassage scolaire faisait tout le tour de la ville et j'étais au dernier arrêt. Pas de chance. Et avec le recul, je me disais, mais 5 km, si j'avais eu des aménagements cyclables, j'aurais pu y être en un quart d'heure, 20 minutes. Et quelle aurait été ma vie en termes de liberté d'adolescent si j'avais pu simplement avoir la passerelle pour traverser cette autoroute que je devais traverser pour aller à mon collège. C'était ça mon sujet. Moi, il y avait vraiment une voie rapide qu'il fallait traverser, donc c'était un peu impossible. Mais du coup, à l'époque, la question du vélo, elle s'était jamais posée. Et ni moi, ni mes parents, ni mes amis, ni les parents de mes amis, aucun a eu même l'idée de demander des aménagements cyclables à leur mère à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'était hors totalement du champ de la vie quotidienne. Et c'est vrai qu'on voit arriver, et je pense que les grandes villes, les centres-villes font un peu tache d'huile, et sans doute il faudra du temps pour atteindre mon Essonne natale et la ville de Ris-Orangis en particulier, même si j'ai vu qu'elle avait un plan vélo depuis quelques temps. Ça commence par les zones 30, voilà, la ville à 30 km/h. Et là, j'ai vu par exemple que la ville de Boulogne, qui pareil n'est pas connue pour ses aménagements à ce stade très ambitieux en faveur du vélo et de la marche, là, va se mettre à déclarer un plan de zone 30, stationnement payant pour les deux roues motorisées, fin de la tolérance pour le stationnement sur le trottoir, etc. Des choses vraiment intéressantes et des pistes cyclables. Et effectivement, on voit que par couronne progressive et successive, ce qui est commencé dans le centre urbain, et c'est pour ça que c'est une responsabilité pour nous aussi, je pense, de commencer à l'impulsion, elle se déploie. Et aujourd'hui, la région Île-de-France finance dans son plan vélo régional des aménagements qui sont faits parfois en grande couronne dans des territoires très reculés, enfin très reculés, à l'échelle francilienne. Aménager une piste cyclable à Melun ou à Rambouillet, franchement, c'est pas rien en termes de révolution que ça peut créer pour des usages dans des territoires comme ça. Voilà.
Tout commence à Paris, non pas tout.
Non, pas tout. Non.
Mais on
tout.
Peut faire un peu du Hidalgo partout, c'est ce que j'entends.
Ouais, non, c'est pas du Hidalgo, hein, c'est non, vraiment pas un jeu. Voilà.
Je prolonge la blague.
Et en une phrase, nous on s'inspire aussi de ce qui se fait en banlieue. Par exemple, la question du stationnement deux roues payant pour les deux roues motorisées, c'est pas Paris qui a commencé, ce sont des villes, d'ailleurs de droite, du Val-de-Marne, qui ont mis ça en place depuis plusieurs années, qui ont eu un bilan positif en termes de baisse des nuisances et de baisse du stationnement sur le trottoir. On l'a mis en place à Paris. Et en fait, voilà, on s'est inspiré d'une idée. Et du coup, on la rend très visible, puisque c'est à Paris. Et je pense que cette mesure, typiquement, qui est une mesure d'apaisement, hein, parmi d'autres, va faire tache d'huile. Et pas que dans les grandes villes. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir ces flux et reflux de politiques publiques là, qui s'inspirent les unes des autres.
Intéressant de voir comment on peut arriver à plus capitaliser, diffuser sur les initiatives des uns, les échecs parfois, les réussites aussi, de façon à percoler de territoire en territoire et devenir faire accélérer les transformations sur les questions de mobilité, globalement de l'espace public et puis globalement de la ville, puisque ça commence par la rue du quotidien. Florent Giry, est-ce que, pour finir, vous avez un ou deux conseils de lecture pour les auditeurs ?
Oui, alors ce n'est pas des lectures que j'ai faites récemment, mais c'est des lectures que j'avais faites pour prendre mon mandat. Quand j'avais été nommé adjoint à la voirie, je m'étais dit que c'était bien d'avoir un petit corpus. Et donc j'ai notamment deux livres que je peux conseiller. L'un qui traite de la question du genre dans l'espace public, qui est aussi un sujet important. Notamment, là, celui-ci s'appelle, c'est Yves Rébaud, qui est un géographe du genre et qui a fait beaucoup d'ouvrages, mais celui que j'ai, c'est La ville faite par et pour les hommes. Alors, pourquoi en tant qu'homme, c'est intéressant de se poser cette question-là ? Parce que justement, on a des œillères parfois inconscientes, pas par malveillance, mais parce qu'on pratique l'espace public de façon très libre et on s'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Et en fait, non. Et donc, il est important d'anticiper ces sujets, d'entendre la parole de ceux qui n'anticipent pas. Ceux qui n'anticipent pas l'espace public de façon aussi libre que nous, et de le prendre en compte au mieux. Et le deuxième livre, qui est beaucoup plus généraliste sur cette question de la reconquête de l'espace public, qui s'appelle « Reconquérir les rues », tout simplement, exemple à travers le monde et pistes d'action, et c'est Nicolas Soulier qui nous le propose aux éditions Ulmer. Et là, ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est une question de benchmark, de bonnes pratiques. Donc, il pioche, beaucoup en Europe, mais pas que, des bonnes pratiques, et souvent, ce sont des pratiques effectivement très locales, de comment on va gérer le frontage d'un pavillon, par exemple. Quelle est la limite, comment on gère la limite espace public et espace privé. ce genre de questions-là, comment on végétalise, dans quelle mesure, etc. Et du coup, c'est vraiment un recueil d'idées qui peut enrichir la réflexion de chacun.
Merci beaucoup, Florent Giry, pour cet échange. On ne manquera pas de suivre, de visiter ces bouts de rue, plutôt que les grandes places, ou en plus des grandes places, et de constater qu'il se passe des choses aussi juste derrière le coin de la rue. Merci d'être engagé aussi là-dessus, parce que ça demande, on ne l'a pas tellement dit, mais aussi une vraie présence du quotidien, un vrai boulot d'élu. Et je pense que ça fait partie, ça fait aussi partie des conditions de ces métamorphoses de la ville, d'avoir des gens sur le terrain qui s'engagent. Merci pour ça, on reviendra prendre des nouvelles de tout ça.
Avec grand plaisir.
Au-delà des programmes ou autres, pour tracer des perspectives, parce qu'on en a vraiment besoin.
Merci beaucoup, à bientôt.